Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Allô Internet! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui s'est déroulée en camping. Je sais pas pour vous, mais avec, en ce moment, la saison du camping qui termine, j'avais envie de raconter des histoires un peu dans ce thème-là. J'ai beaucoup d'amis qui vont camper seuls, vraiment, là, seuls dans le fin fond de la forêt, et des fois je me dis que je trouve ça dangereux. Tu sais, c'est ça un peu la réalité d'être une femme, c'est d'aller camper et d'avoir conscience que ça peut être dangereux. Donc c'est ça, c'est une histoire qui a lieu au Canada, plus précisément en Colombie-Britannique, et malheureusement c'est toujours irrésolu. C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Restez là. Écoutez le podcast Over and Out. Donc avant de commencer, je vais vous parler de Maddie Scott de 20 ans qui est née le 29 avril 1991. Ses parents sont Eldon et Dawn Scott. Elle a un grand frère nommé Ben et une petite sœur nommée Georgia. Donc Maddie, c'est une fille qu'on décrit comme étant vraiment active et outgoing. Elle aime beaucoup sortir avec ses amis. Elle fait du vélo de montagne, elle adore les sports d'équipe, elle fait même de l'équitation. Ben, quand il parle de Madison, il dit qu'elle est aussi confortable en salopette qu'en robe. Pour vous donner une idée, elle a déjà travaillé comme apprentie mécanicienne de machinerie lourde avec son père. Donc je pense qu'on pourrait dire qu'elle est un petit peu tomboy et elle fait un peu des sports et des activités non conventionnelles pour des jeunes femmes de cet âge-là. Mais finalement, des hobbies puis des activités, c'est non genré. Mais bon, elle sort un peu du lot et c'est vraiment cool. Par contre, on dit d'elle que, bon, elle adore se faire du fun, mais on dit qu'elle est assez impulsive. C'est vraiment son genre d'annuler un plan qui était déjà prévu pour quelque chose de plus amusant. Elle aimait aussi se gâter, s'acheter des choses assez chères comme le tout nouveau iPhone ou de l'équipement de vélo. Deux choses qui d'ailleurs n'ont pas disparu avec elle, vous allez comprendre plus tard. Ses amis disent qu'elle est affectueuse, attentionnée, qu'elle ferait tout là, pour les gens qu'elle aime. Donc je crois qu'à ce stade-ci, c'est une description assez complète de Madison. Maintenant, on va passer aux événements. Donc, tout a commencé pas mal le 27 mai 2011. C'était un vendredi soir et Maddie était supposée voir sa cousine, Cora Kelly. Il y avait des plans depuis quand même longtemps, mais malheureusement, Maddie a annulé à la dernière minute parce qu'il y avait un party au lac Hogsback et elle voulait vraiment y aller. Le lac Hogsback, c'est surtout un camp forestier qui est vraiment juste à côté de la ville, donc c'est comme un peu en région. Il y a trois endroits pour y camper. Il y a un endroit aussi pour se baigner dans le lac et un genre de quai. Et c'est pas très très gros, c'est un lac qui fait environ 1 km et c'est entouré de forêts avec des petits sentiers qui mènent d'un camp à l'autre, d'un terrain de camping à l'autre. Donc le plan, c'était d'aller à la fête du lac Hogsback. C'était une connaissance de Maddie qui organisait son anniversaire, ben de ce que Maddie avait compris, tout le monde allait camper là pour la nuit. Donc Maddie s'est rendue au party dans son pick-up, un Ford F-150 blanc de 1990, et elle était accompagnée de son amie Jordy Bolduc. Et Jordy et elle, bon, c'était pas des meilleures amies. Elles s'étaient rencontrées au début de l'école secondaire en 2007 et ça l'avait vraiment cliqué, elles étaient devenues super proches. Mais plus les années ont avancé au secondaire, les deux filles se sont séparées. Et depuis le moment qu'elles se sont diplômées en 2009, ça faisait déjà un petit bout qu'elles ne s'étaient pas vues, je crois. Au party, il y avait environ 46 personnes, toutes dans les âges de Madison, environ 18 et 25 ans. Et il y avait d'autres personnes qui avaient environ dans la quarantaine. C'était tous des gens de la région, de Vanderhoof, la ville de Madison également. Madison connaissait bien entendu son amie Jordy, elle connaissait l'organisateur de la fête, connaissait d'autres personnes, mais il y avait aussi plusieurs personnes que Madison n'avait jamais vues. Puis la fête, elle a un peu mal tourné, si on veut, je pense qu'il était supposé être beaucoup moins. Et c'était la fête de l'organisateur, Garrett. Et Garrett, il faisait cette fête à chaque année. C'était vraiment comme une genre de tradition. Mais il y a des gens qui avaient comme entendu parler de cet événement, des gens qui connaissaient pas Garrett, qui se sont juste pointés. Fait que j'imagine que c'est pour ça qu'il y avait des gens dans la quarantaine, alors que c'était toutes des jeunes en 18 et 25 ans. Madison, elle avait été invitée à cette fête sur Facebook. Il y avait eu un événement qui s'était organisé. Donc là, on va voir le timeline de la soirée. Madison et Jordy sont arrivés à la fête à 20h, comme c'était prévu. La fête devait commencer à 20h. Et en arrivant, les filles se sont mises à comme rassembler des bûches de bois, des branches, pour faire un gros feu de camp. Et il y avait déjà pas mal de monde qui était arrivé. Mais là, au moment de monter sa tente, Madison s'est rendu compte qu'elle avait amené une tente beaucoup trop petite ou trop grosse. Là, c'était pas de la bonne grosseur pour ce qu'elle avait prévu. Et elle n'avait pas non plus les pôles pour monter la tente. Fait qu'elle pouvait pas du tout monter la tente. Et comme elle dormait là, ben là, ça créait un problème. Donc, elle est retournée à la maison chercher ses nouvelles pôles. Elle a parlé 2-3 mots à sa mère là, à peine. Puis elle est rentrée. À ce stade-ci, il est environ 20h30.
And we set up our tent. And then we started to drink. And more people came. And then there was some rowdy people that showed up that were not friends with the people that were there.
Elle arrive au lac à 21h30. Et là, elle monte la tente. Et se couche pour la soirée. C'est vraiment ça qui est bizarre, puis il y a comme personne vraiment qui a une explication. Fait que toute la soirée, elle est dans la tente et elle profite aucunement de la fête. Là. Fait que c'est ça qui est un peu étrange, tu sais, si elle a tout. C'est donné le mal d'aller jusque là-bas, de faire la tente, de trouver des bâtons pour le feu. Pourquoi tu veux te coucher à 9h30, ce qui est super tôt, si juste à côté de toi, tous les gens sont en train de fêter? Toujours dans la tente, sa mère et elle s'envoient des messages textes, je pense qu'ils parlent d'une chanson. Mais, encore là, elle ne sort pas de la tente. Par minuit et demi, elle est toujours réveillée dans sa tente. Elle reçoit un appel sur le SU grâce aux données téléphoniques. Elle reçoit un appel qui venait de la part d'un garçon que la famille de Madison dit en entrevue que ça venait de la part d'un garçon qu'ils connaissent, que la famille connaît. Mais il dit jamais c'est qui, s'il est important dans l'enquête. Il dit juste « on sait c'est qui ». À peu près à ce moment-là, il y a une genre de bataille qui éclate au sein du party. Et Jordy, qui était complètement saoule à ce moment-là, elle est genre tombée un peu dans le feu. Mais pas genre tout son corps complet, mais elle est un peu tombée dans le feu. Peut-être qu'elle s'est brûlée, je sais pas, le coude, le doigt, bon. Un petit peu, rien de grave. Mais là, elle est blessée, elle est saoule, elle va pas bien.
She like was kind of like, no, like, don't leave. Like... And she, but she was already in bed, and I was just like, well, like, I can't, like, I need to go, like, I'm just super drunk.
Donc, Jordy va dire à Madison qu'elle veut partir. D'ailleurs, elle venait juste de se faire un nouveau petit ami cette soirée-là, donc elle veut partir avec lui, et elle demande à Madison si elle veut y aller avec eux. Puis honnêtement, peut-être qu'elle avait une bonne raison, mais c'est un peu une push, là, un peu nulle de la part de son ami de Jordy, de partir comme ça, puis Madison, bon, à ce stade-ci, elle avait passé comme toute la soirée dans la tente, puis je pense que à 1h30 du matin, quand t'as tout monté ta tente, t'as même fait des allers-retours, tu vas pas partir. Fait que effectivement, Madison a dit, ben moi, j'y vais pas avec toi, je vais rester ici dormir. Encore là, elle est toute seule. Puis à ce stade-ci, à cette heure-là, il reste environ 5 personnes à la fête.
I decided to leave in different groups at various times in the night. And Maddie was left behind. Nobody camped there but her.
Plus la nuit avance, plus les 5 personnes partent individuellement en petits groupes. Puis à chaque fois que quelqu'un part, ils vont voir Madison, qui est toujours dans sa tente, puis lui disent « T'es sûr tu veux pas venir avec nous? T'sais, nous, on s'en va. Veux-tu rester? Qu'est-ce que tu veux faire? On peut aller te porter chez toi, pas de problème, blablabla. » Mais Madison refuse à chaque fois. Elle dit « Non, je vais rester ici, c'est beau. » Fait que finalement, c'est un peu weird, genre, Madison est toute seule dans sa tente, est toute seule à faire du camping, finalement. On sait pas si c'était peut-être prévu, tu sais, que tout le monde campe là. Finalement, Madison, c'est la seule à avoir campé. C'est un peu choquant. Mais tu sais, elle est déjà installée, fait qu'elle dit, regarde, je vais dormir, puis demain, je partirai. J'imagine que c'est ce qu'elle s'est dit à ce moment-là. Mais là, ça a été le dernier moment qu'on a vu Madison. On croit qu'elle a disparu entre 3h et 8h30 du matin. C'est le lendemain matin, justement vers 8h30, que Jordy est retournée au terrain de camping pour récupérer son sleeping bag et tous ses vêtements qu'elle avait laissés là. Elle a découvert que Maddie n'était plus là. Sa tente était dézippée et son sleeping bag était comme toute poussée dans le fond de la tente. Puis à ce stade-ci, elle a comme pas plus paniqué que ça parce que elle s'est dit sûrement « Ah, Madison est allée peut-être nager au lac. » Bon, ça me surprendrait, là. Ou bon, elle, je sais pas, elle est allée se promener, mais Jordy, elle s'est pas posée de questions, elle a pas appelé les parents de Madison, y a rien de tout ça qui s'est passé. Il y a aussi l'organisateur du party, Garrett, qui est allé nettoyer l'endroit où ils ont fait le party à 10h30 ce matin-là. Il faisait ça à chaque année, donc il partait durant la nuit, puis il retournait dès le lendemain matin pour faire le ménage. Maintenant, lui, il remarque que la tente de Madison, elle est zippée, sûrement Jordy qui l'a zippée en partant, mais il vérifie pas si Madison est toujours à l'intérieur parce qu'il se dit « Ah, elle doit être couchée encore, je vais pas la déranger. » En plus, pour appuyer ses propos, ben, il y avait son pick-up juste à côté, fait qu'il s'est dit, tu sais, elle est encore là, elle dort. Et c'est bon de préciser que là, il y avait personne sur le site, là. Il y avait seulement la tante de Madison et son pick-up. Cette même soirée-là, il y a eu un autre party sur le terrain de camping. Cette fois-ci, il y a environ 150 personnes et selon tous les gens qui sont sur place, Madison n'y était pas. Même que Georgia, la petite sœur de Madison, était au party. Elle a vu les trucs de Madison, même que sa tante de Madison était comme toute écrasée. Il y avait le pick-up de Madison, mais Maddie n'y était plus. Et sa sœur, encore là, s'est pas vraiment posée de questions. Je sais pas quel genre de relation ils avaient, mais elle s'est dit, écoute, Madison doit être partie en laissant ses trucs ici, peut-être qu'elle est allée dormir chez quelqu'un. Et c'est possible que la sœur de Madison se soit dit, ah, peut-être que Madison est chez un garçon en ce moment, je vais le dire à personne, je veux pas inquiéter les parents, je veux comme la baquer dans cette histoire-là. Bref, elle s'inquiète pas du tout. On arrive le dimanche matin, à ce stade-ci, ça fait environ 2 jours que la famille de Madison n'ont pas eu de nouvelles de leur fille. Il y a des amis qui essaient de la contacter, ses parents essaient, elles répondent pas. Ils se disent, c'est weird, mais en même temps, Madison est super indépendante, on veut pas trop la gosser, on dirait ça au Québec, là, mais genre, on veut pas, je sais pas, essayer de la contacter, lui mettre de la pression, tu sais, c'est une adulte, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais ça reste un petit peu bizarre, parce que Madison, elle donnait des nouvelles à ses parents normalement. Fait que c'est là que le dimanche, sur l'heure du midi, les parents de Madison, ils décident de se rendre au lac pour voir que tout va bien. T'sais, ok, notre fille est partie camper, on n'a pas de nouvelles, son téléphone marche pas, peut-être qu'il n'y a pas de réseau, mais on veut voir si ça va bien, puis c'était pas très loin non plus. Ils arrivent sur place et là, ils aperçoivent la tente de Madison, encore là, tout effondré. Le pick-up de Madison qui est verrouillé, puis ils regardent à l'intérieur, puis il y a le sac à main de Madison. Ils demandent à des gens qui campent pas très loin, donc d'autres familles, d'autres personnes qui étaient sur genre pas le petit terrain de camping, mais sur le gros terrain de camping, là, si je m'explique bien. Donc, ils leur demandent s'ils ont vu leur fille, et tout le monde répond que non, ils n'avaient pas vu, il n'y avait personne dans cette tente-là depuis longtemps. Et c'est exactement là que Eldon et Don ont appelé le 911 pour signaler la disparition de leur fille. Encore une fois, je suis bien contente, j'ai l'appel 911. Écoutez bien ça.
Hi, I'm calling my daughter's 20, Rose Hogsback, and I haven't heard from her since Friday night. And we just came out, and our pickup is here in the vehicle, and people haven't seen her at all.
Okay, what's her name?
Madison Scott.
And what's her date of birth?
April 29th, 91.
So she was last heard from on Friday?
Friday night, yes.
Okay.
All of her stuff's here, but, yeah,
okay,
I don't know.
Okay, where does she live? With you?
She, yes, with us in Vanderhoof.
Does she have a vehicle with her?
The vehicle is here, yes. We are out at Hogsback. I talked to her Friday night, and then we just haven't heard from her yesterday, and her cell phone has been dead.
The truck has been there all the time?
The truck, yes, it has been. We're
okay.
At the truck and the tent right now.
And no answer on her cell?
No answer. It's been dead, it seems, since yesterday.
L'enquête pour retrouver Madison, honnêtement, elle a été super intensive.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ils ont utilisé comme des objets, des outils jamais utilisés dans des disparitions avant. Les enquêteurs ont interviewé chacune des personnes présentes lors des deux parties, chacune d'entre elles. Tout le monde a vraiment coopéré, il n'y avait rien qui levait des drapeaux rouges, dans le sens qu'il n'y avait rien d'anormal, tout le monde semblait dire la vérité. Ils ont même fait passer le polygraphe à ces gens-là, et tout était beau.
I think it's no secret that in the course of the investigation, polygraph has been used as an investigative tool. I would be doing a disservice to those people who have undertaken the polygraph examination to speak specifically to the questions. As well as we continue the investigation, we may have to use this technique further to eliminate people in respect to their involvement in Maddie's disappearance. But I can say that we have received cooperation from everyone that was at that party that night to eliminate themselves from any involvement in Maddie's disappearance.
Donc, les enquêteurs ne croient pas que qui que ce soit qui était présent au party, aux deux parties, soit impliqué dans la disparition de Madison. Ensuite, on a collecté tous les effets personnels de Madison. Les policiers y ont collecté son pick-up, sa tente, son sleeping bag, son oreiller. Et ils ont même demandé le sleeping bag et l'oreiller de Jordy, son ami. Tout a été analysé par les policiers dans deux laboratoires différents. Il n'y avait rien de louche. D'ailleurs, ben, Jordy était déjà en possession de ses effets personnels. Les policiers lui ont demandé. Elle leur a remis son sleeping bag, son oreiller. Elle avait juste lavé son oreiller, pas son sleeping bag. Puis, je trouve pas ça bizarre, là, je sais pas pour vous, mais moi, j'arrive de camping, je veux tout laver tout de suite en arrivant. Surtout ma tête d'oreiller avec laquelle je dors. Là. Fait que c'est pas anormal. Il y a juste... Jordy, elle a dit un commentaire genre... tu sais, je pense qu'elle avait parlé aux parents, puis... Elle a dit, là, c'est quand que les policiers vont me redonner ma tête d'oreiller, c'est mon oreiller préféré, ou je sais pas trop. Un peu insensible comme commentaire, mais elle a vraiment coopéré avec les policiers depuis le début. Et bon, elle a passé le polygraphe haut la main. Dans le sleeping bag de Jordy aussi, il y avait un petit peu de sang. Et elle a affirmé que ça venait d'une coupure qu'elle s'était faite quelques semaines auparavant. Puis j'imagine que la gale saignait assez souvent, puis ça concordait parfaitement. Là. Le téléphone cellulaire de Maddie et ses clés n'ont jamais été retrouvées. Puis ça, c'est vraiment, vraiment un très bon indice. Là. Écoutez la suite. Il s'agit définitivement d'une disparition inquiétante, soit un meurtre. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a aucun signe de débat, de struggle. Il n'y a pas de tache de sang, il n'y a rien... Sauf le sleeping bag dans le fond, encore là, ça veut comme rien dire, tu sais. Il y a la région du lac Hogsback qui a été fouillée, là. Genre, même la famille est unanime, ils disent, c'est sûr qu'elle est pas là, tu sais. Ça a été fouillé, là. Le lac, il a été fouillé. qui est pas très gros, fait qu'il y a des plongeurs qui sont allés, des sondes, tout, là. Le lac, les ravins, des ruisseaux, les terrains, les étangs, toute la forêt. Il y a des volontaires, des experts, tu sais, en genre de secourisme ou en recherche qui étaient là. Ils étaient à pied, à dos de cheval, en hélicoptère, avion, quatre roues. Il y a des chiens pisteurs. On a tout fait le trajet par auto, par bateau. Les plongeurs dans l'eau, tu sais, sérieux, là, tout a été fouillé. Puis tu sais, ils ont vraiment mis les gros effectifs pour retrouver Madison, puis rien. Puis on se demande là, vraiment sérieusement, là, t'sais, c'est quoi qui aurait pu se passer? Puis à ce stade-ci, on parle déjà d'une récompense de 100 000 $ là, c'est énorme. Donc il y en a qui disent, bon, mais est-ce qu'elle aurait pu se faire attaquer par un animal sauvage, par exemple? Pas vraiment, parce qu'encore là, on aurait des traces, t'sais, de violence, on aurait des gouttes de sang. Les jours suivants la disparition de Madison, il y en a beaucoup qui ont vu un cougar dans les parages. Bon, ça peut être intéressant, mais encore là, t'sais, un animal sauvage qui attaque... un humain, là, surtout en forêt comme ça, là, t'sais, on parle pas de requins ou hippopotames ou je sais pas, en forêt comme ça, ben, si Madison avait été attaquée, on aurait trouvé justement du sang, les chiens l'auraient senti, on aurait trouvé des morceaux de vêtements, des ossements, fait que c'est comme impossible. Il y a aussi la théorie de la noyade que vous allez me dire. Peut-être que pour une raison weird, Maddie serait allée se baigner le matin très tôt ou durant la nuit, puis elle se serait noyée. Encore là, on a vraiment fouillé, puis on n'a rien trouvé. On a fouillé le lac, il n'y a rien dans le lac. Elle n'est pas là. Puis le lac est petit, là, fait que si on l'aurait pas manqué du tout. Donc c'est sûr que dans cette affaire, la théorie, l'hypothèse du meurtre est la théorie la plus privilégiée par la police et par sa famille. Et on croit que Madison aurait quitté à bord d'une voiture et non à pied parce qu'il semblait pas avoir de traces de pas indiquant que Madison aurait quitté à pied. Et ce qui est important ici, c'est que comme il n'y a pas de traces de débat, de violence et qu'elle est partie avec son téléphone et ses clés, ça voudrait sûrement dire que Madison connaissait le responsable de sa disparition. Fait qu'il n'y a pas vraiment de suspect, il y en a qui ont été... bon... c'est pas des suspects, mais ils ont été un peu suspectés par la police. Donc, c'est pas des suspects officiels, pas du tout. C'est juste, bon, c'était important de les questionner. Avant de disparaître, Madison était intéressée à un garçon. Puis, ils se sont fréquentés un petit peu. Malheureusement, le garçon a dit à Madison, ça faisait pas beaucoup de temps, il avait dit qu'il était pas vraiment intéressé et qu'il souhaitait rester ami. Ce qui peut être super triste quand t'es en amour avec quelqu'un, mais ça avait pas vraiment affecté Madison plus que ça. Selon ses proches, ses amis, elle était comme « Ah ben, t'sais, c'est un peu nul, mais c'est pas grave, pas de problème. » Et de ce qu'on sait, il a été enquêté, ce garçon-là, puis c'est comme une fausse piste. Il y avait rien d'intéressant de substantiel dans cette théorie-là. Sinon, il y a un autre gars que lui était intéressé par Madison, mais elle ne l'était pas. Puis apparemment que ça l'insultait ben gros, puis en privé, avec des amis proches, il disait que ça le fâchait beaucoup d'être intéressé à une fille qui ne l'était pas en retour. Ce gars-là, il a été interrogé, là. C'est fou. Il a été interrogé énormément pendant plusieurs heures, plusieurs fois, mais ils n'ont rien trouvé sur lui non plus. Sinon, il y en a beaucoup qui vont me dire, ben, Jordy, tu sais, Jordy, est-ce que c'est un suspect, une suspect? Mais tu sais, je pense pas, là, elle a quitté pour la soirée, tout le monde l'a vu quitter, elle était avec son petit ami toute la nuit, elle est revenue, les gens l'ont vu revenir, tu sais, c'est facile à dire, là, parce que c'est les seuls qu'on connaît là-dedans, là, dans cette histoire-là, mais elle était comme un peu insensible à la disparition, mais encore là, c'était pas vraiment sa meilleure amie non plus. Puis en entrevue que je vois, je trouve pas qu'elle a l'air insensible. Le seul truc, c'est que ses parents disent, c'est qu'elle nous a jamais contacté quand Madison, elle a disparu. T'sais, elle a remarqué que la tente était vide, elle nous a pas appelé. C'est weird, mais c'est pas si weird que ça, dans le fond. Sinon, c'est possible aussi qu'il y ait une personne un peu random, qui faisait pas partie des invités de la fête, qui ait vu Madison seule dans sa tente et qui s'en soit pris à elle. Encore là, c'est pas impossible, mais comme c'est un endroit super éloigné, t'sais, c'est un endroit isolé, le lac, c'est pas... faut que tu y ailles pour camper, là. Fait que c'est peut-être quelqu'un qui était ailleurs sur le terrain de camping, qui faisait pas partie de la fête, qui s'en est pris à elle. C'est beaucoup plus probable ça que, genre, quelqu'un qui se soit pointé, un tueur opportuniste. Puis écoutez ça, là, quand même, c'est intéressant. Selon les statistiques du FBI, les kidnappings faits par des inconnus qui impliquent des femmes sont souvent motivés par des agressions sexuelles, évidemment, et implique souvent des armes à feu. Donc, si Madison, elle avait un gun sur sa tempe, là, est-ce qu'elle aurait pris le temps de prendre son téléphone cellulaire, ses clés? Bon, son téléphone, peut-être, oui, pour appeler les secours. Mais encore là, c'était en 2011, là, les téléphones cellulaires, c'était pas comme aujourd'hui. Là, je l'ai vécu 2011, je m'en rappelle. On s'en servait beaucoup, oui, mais pas autant comme aujourd'hui. Mais sans, aujourd'hui, là, on a notre téléphone scotché à notre main. Là, c'était pas ça du tout. Et ses clés, est-ce qu'elle aurait pris le temps d'amener ses clés? Moi, je penserais pas amener mes clés si j'avais un gun de pointer sur ma tempe. Donc, c'est quand même une bonne question à se poser. Il y en a qui ont suggéré que Madison aurait pu être tuée par un genre de tueur en série qui était actif à cette époque-là, dans cette région-là. Il y en a beaucoup qui ont proposé Israel Keyes. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, qui est un tueur en série assez fascinant, si je peux me permettre. Mais plus de la façon qu'il opérait, parce que Israel Keyes, je vous conseille d'aller voir ma vidéo, je vais mettre dans la barre d'infos, mais je vais vous expliquer un peu comment il agissait. Israel Keyes, il cachait des murder kits, donc des kits pour commettre des meurtres un peu partout à travers les États-Unis, au nord des États-Unis aussi. Donc, il passait par une forêt, il dit « Ok, je vais m'enterrer un murder kit ici, puis je peux revenir dans plusieurs années et tuer quelqu'un qui est pas très loin. » C'est vraiment un tueur opportuniste. T'sais, s'il y avait une personne qui voyait, puis à ce moment-là, il avait envie de tuer, même s'il n'y avait aucun lien avec la personne, la victime, ben il tuait. C'était comme une pulsion qu'il avait. Puis il choisissait vraiment des victimes un peu random, avec aucun lien à lui, pour justement... que ça passe plus inaperçu, puis pour jamais se faire attraper. Malheureusement, on pourra jamais savoir, parce que Israel Keyes, il est mort. Mais les experts sont pas mal sûrs qu'il n'y a rien à voir avec cette disparition, parce que Israel Keyes, il volait ses victimes avant de les tuer. Donc, il cambriolait, et, tu sais, Madison, elle a laissé beaucoup de choses de valeur derrière elle, comme son sac à main, sa caméra, de l'alcool et de l'équipement de motocross super cher. Fait qu'il aurait pris cet équipement. Puis cette nuit-là, du 27 au 28 mai 2011, Israel Keyes y habitait à Anchorage, en Alaska, ce qui est à 33 heures de route du lac Hogsback. Donc, c'est vraiment, vraiment loin. Je pense pas qu'il aurait fait tout le trajet pour tuer s'il était pas du tout dans le coin. Puis bon, ça n'a pas vraiment de sens. Mais je vous recommande quand même ma vidéo sur Israel Keyes, si ça vous intéresse. Et il y a aussi une autre théorie qui est en lien avec une autre vidéo que j'ai faite, le Highway of Tears. Dans le fond, selon les dates de disparition et le lieu, Madison pourrait être considérée comme l'une des victimes du case de Highway of Tears, dans le sens qu'elle pourrait être sur la liste des victimes. Encore là, je vais mettre le lien vers ma vidéo dans la barre d'infos. Mais par contre, pour cette affaire-là, la famille de Maddie veut pas qu'elle figure sur la liste. Ils croient vraiment pas qu'elle est reliée à cette affaire, fait qu'ils veulent pas vraiment que c'est ça. Ils veulent pas qu'elle soit sur la liste, ils disent que ça n'a aucun sens. Mais il y a quand même quelques ressemblances. Par exemple, il y a deux cas de victimes du Highway of Tears qui ont disparu. Et dans les deux cas, ben, c'était des femmes et il y avait des objets de valeur qui avaient été laissés derrière elles. Mais même si elle figure sur la liste ou pas, ça ne nous dit pas plus où elle est. Il y a aussi un autre truc assez louche que je dois mentionner. En janvier 2012, environ 6 mois après la disparition de Madison, il y a un jeune homme de 28 ans nommé Fridbjorn Bjornsson, qui venait aussi de Vanderhoof, a été assassiné par trois gars et une fille, à peu près tous dans les mêmes âges. Il a été assassiné dans un party qui avait lieu dans une maison abandonnée où il y avait pas mal de drogue là, cette soirée-là. C'est vraiment creepy, puis se serait fait torturer à mort. C'est super triste, puis il y en a justement qui pensent qu'il y aurait un lien entre ce meurtre-là puis la disparition de Madison parce que les deux se connaissaient. Ils avaient déjà joué dans la même équipe de softball, mais une amie de Madison dit que ils se connaissaient, mais pas, ils se sont pas fréquentés ni quoi que ce soit. Ils faisaient juste se connaître un peu. Le gars, là, Fridbjorn, la victime, c'était comme apparemment pas une bonne personne. Fait que Madison, elle se serait jamais liée d'amitié avec un gars comme ça. Les policiers ont vraiment enquêté sur le potentiel du lien entre les deux affaires, mais ils ont rien trouvé. Et les familles des deux victimes respectives croit qu'il n'y a aucun lien. Donc, il y a encore 100 000 $ de récompense pour toute information permettant de retrouver Madison Scott. Je vais vous mettre le lien vers sa page Facebook dans la barre d'infos. Juste pour terminer, Madison Scott, elle a disparu officiellement le 28 mai 2011, 20 ans. Elle mesurait 5 pieds 4, pesait 160 livres. Elle a les cheveux un peu roux, rouquines aux épaules. Elle a un tatouage d'oiseau sur son poignet gauche et le nez percé. Elle a beaucoup de points de rousseur aussi dans le visage. Puis merci, il y a une abonnée qui m'avait suggéré cette affaire-là, puisqu'elle connaissait Madison. Elle était déjà allée vivre chez elle dans le cadre d'un échange scolaire. Donc voilà, merci pour l'abonné qui m'a donné cette suggestion. Ben sinon, n'oubliez surtout pas de garder l'œil ouvert, c'est super important. Et c'était Victoria Charlton, over and out.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.